queen, young and sweet, only 17.
Bienvenue dans ma bulle. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Eva Devert et vous êtes bien sur Graffiti Urban Radio. Désormais, nous allons nous retrouver tous les mois pour une émission consacrée à l'art. Musique, cinéma, danse, théâtre, créatures de la nuit, littérature, mode, histoire de l'art. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes connus ou moins connus pour ensemble explorer leur univers. Au travers de leurs œuvres et aussi de leurs témoignages, nous voilà partis pour un petit voyage d'une heure dans ma bulle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mois. Ce soir, nous allons partager notre soirée avec un ami de longue date, un ami des bancs d'école, artiste lyonnais que beaucoup d'entre vous et d'entre nous connaissent. Puis dans un second temps, à la demande de certains et certaines, je vais vous rediffuser un échange que j'ai eu avec un autre ami, également comédien. J'avais eu cet échange en mars 2022. C'est avec l'humoriste Jean-Philippe Janssen que nous nous retrouverons. Et bien voilà, c'est parti pour ce petit voyage dans ma bulle. Nous nous connaissons depuis plusieurs décennies, rencontrés sur les bancs de l'école, puis dans les couloirs du conservatoire. Aujourd'hui, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre, c'est avec beaucoup de plaisir et un grand bonheur que je reçois mon cher et tendre ami, Monsieur Karl Brochoir. Bonsoir Karl.
Bonsoir Eva.
Comment vas-tu ce soir?
Écoute, ça va. Pas se plaindre, c'est une période assez dense pour moi parce que par rapport au boulot, c'est vraiment la période de l'année où il y a toutes les restitutions d'ateliers, de cours, etc. etc. Une période dense, mais que j'adore.
Bon, très bien, on va en parler tout à l'heure. Alors on va démarrer tranquillement, comme je fais avec tous mes invités habituellement. Je vais te poser une première question qui pour moi est facile à poser, mais pas forcément facile à répondre.
Ne t'inquiète pas de toi.
Je vais te demander tout simplement que tu nous dises qui est Karl Brochoir et d'où vient-il.
Alors voilà, bon, je vais répondre, je vais éviter de parler de moi à la troisième personne.
Mais oui.
Alors ben, je suis né à La Roche-sur-Yon. Un enfant du pays, vraiment. Donc voilà, je suis né ici, j'ai grandi ici jusqu'à mon bac, période d'ailleurs où je t'ai connu.
Tout à fait.
On était au lycée ensemble. On faisait du théâtre ensemble, d'ailleurs. Donc voilà, donc j'étais un jeune garçon à la base de La Roche, simplement. Et puis, vu mon papa, d'ailleurs, aussi en professeur à Renoir à l'époque.
Et oui, oui, oui.
Et voilà, après je suis arrivé au lycée à Mendès France, c'est là où j'ai commencé vraiment le théâtre. Et après, je m'étais un peu au conservatoire, et puis voilà, tout a débuté pour moi. Donc là, mes premières armes, alors que dire sur moi, faut que je dise, excuse-moi, je dise quoi d'autre sur moi, c'est qu'est-ce qui...
Le point de départ est plutôt pas mal, donc le théâtre est arrivé... Okay. Arrivé donc à la période du lycée, comme tu le dis.
Ouais.
Y avait déjà des prémices avant, tu étais déjà attiré par le théâtre, parce que pourquoi tu as choisi de venir à Mendès France en option théâtre ?
Sincèrement, non, j'étais pas voué à faire des études, etc. Ce que j'ai fait malgré tout par la suite, j'étais ce qu'on appellerait, on m'a dit dimanche soir, moi, ce qu'on appellerait un petit branleur au collège qui ne faisait pas grand chose. Et je ne savais absolument pas quoi faire après le collège. C'était déjà un petit miracle, le soir arrivé en troisième quasiment. Et puis, sachant pas quoi faire, qu'on pouvait faire du théâtre, je savais pas du tout ce que c'était. Enfin, voilà, j'avais. Et donc, je me suis inscrit au théâtre et où j'ai découvert la seconde, le théâtre en seconde, c'est que Francis Lebrun, évidemment. Donc, je me suis retrouvé avec moi en classe. Et puis, on a La Roche, donc je pense que je peux citer plein de noms qui parleront à des gens. Alors, on peut parler de Frank Montal, il y avait Sarah Leck, il y avait.
Oui.
En fait, ça m'embête d'en citer parce que j'ai peur en fait d'oublier les autres. Mais
enfin, on a peur de les oublier. Ben oui, ouais,
c'est
oui.
Ça. Mais il y a toute la clique. Voilà, j'ai découvert le théâtre avec ce groupe-là. Donc ça m'a plu. L'année d'après, j'ai fait l'audition du conservatoire et puis voilà. Donc tout était parti avec le théâtre comme ça. Voilà. Mais à la base, vraiment, c'était comme je savais pas quoi faire, soit par défaut parce que théâtre, tu viens, ça va être rigolo. Je savais pas trop à quoi m'attendre et c'était un petit essai comme ça. Et puis, j'ai une vocation par la suite.
Voilà, parce que tu t'es rendu compte que finalement, c'était des vraies études et un vrai métier.
C'est ça, ouais. Alors, vraies études, c'est que j'ai après le bac, d'ailleurs, j'ai mis un pied pas en stand-by, parce que j'ai fait une étude d'histoire de l'art aussi. Et jusqu'en master en histoire de l'art. Parce que ça me plaisait, je voulais absolument pas faire de carrière dans le patrimoine ou dans l'histoire de l'art en général, tous les métiers sur lesquels ça peut déboucher. Mais c'est que ça me plaisait. Donc, voilà.
Oui, puis c'était un bagage supplémentaire.
C'est un bagage supplémentaire, ouais, voilà, qui correspond aussi à une petite curiosité de ce qu'était la création, pourquoi la création. Et puis, ouais, je me rappelle, ça date du lycée, ça aussi. C'est quand je voyais nos copains d'Arpé qui grattaient des feuilles de 3-4 pages doubles sur un dry pin de Pollock. Ça m'impressionnait. Je me disais, qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter sur ce tableau-là. J'étais curieux, donc c'est pour ça que je suis en histoire de l'art. Et pareil, ça m'a plu. Donc voilà, développer un peu cette passion, enfin ce qui est devenu par la suite une passion, voilà.
Donc le diplôme d'histoire de l'art, t'es allé jusqu'au bout alors.
Je suis jusqu'au bout, ouais, avec, d'ailleurs on verra par la suite qui a son importance, avec, j'ai écrit mon mémoire en Italie, à Sienne.
Voilà.
Erasmus, à l'époque Erasmus.
Et enfin, oui, tout à fait. Donc, on est en histoire de l'art, master, tu parles de ton mémoire, donc tu pars en Italie pour écrire le mémoire.
C'est ça, je pars en Italie où j'écris un mémoire sur Macchiaioli, qui sont, on va dire, les contemporains des impressionnistes pour faire large, donc en Italie, en Toscane notamment. Donc voilà, et j'ai fait le rapport qu'ils avaient avec la production parisienne de la deuxième moitié du 19e siècle, en fait. C'était le rapport entre les Italiens et les Français à l'époque, sachant que, évidemment, c'était Paris qui dominait, qui était la capitale des arts. Et donc, vraiment, comment ils voyaient Paris, il y a ceux qui la dédaignaient. Parfois par jalousie, parfois parce qu'ils n'aimaient pas la production picturale, et puis ceux qui l'admiraient, etc., qui sont même allés vivre là-bas. Macchiaioli, qui veut dire la macchia en italien, c'est la tache, en fait, c'est des taches d'empattement, comme ça, une sorte d'impressionnisme italien. Faire vraiment raccourci.
Très bien. Donc là, tu es en Italie, et qu'est-ce qui se passe en Italie? Puisqu'il y a le mémoire, mais il se passe d'autres choses.
Ah, il se passe plein de choses en Italie, même si on est dimanche soir, il y a des choses que je ne pourrais pas dire à l'antenne. Mais
non, on ne va peut-être pas tout dire, effectivement.
Non, il se passe que des belles choses. Je tombe à nous amoureux d'un autre pays, d'une langue, culture aussi. Et, mais ça dure un an. Au bout d'un an, je reviens. Triste comme un pont, j'avais pas envie de revenir. Parce que j'y étais bien, mais il fallait que je revienne, parce que des fois je discute d'ailleurs mon mémoire sur Nantes. Et puis, bon, ben, en Italie, après, j'avais pas forcément de possibilité d'avenir là-bas, etc., etc. Donc après, j'étais en France, fini histoire de l'art. Donc là, j'ai baroudé, comme j'ai essayé de faire parfois dans ma vie. Et j'ai baroudé en perdant un peu, mais bon, c'est là que je m'en perds. Donc j'ai vécu un petit peu à Nantes, à Paris, de voir des potes, même dans le sud de la France, voilà. Je me cherchais sans jamais me trouver, et voilà, jusqu'à ce que je finisse à faire des vendanges en Bourgogne avec mes amis. Pareil, on a La Roche, donc il y a des amis de La Roche notamment, mon grand ami Vincent Bouillet, et on est parti en Bourgogne faire les vendanges. Et à l'issue de ces vendanges, tout le monde rentrait en Vendée, et puis moi je me dis, non, je... J'ai pas envie de retourner en Vendée, donc je suis parti déjà faire une petite étape chez mon frère à Nice, qui habitait à Nice à l'époque. Et c'était histoire de me rapprocher d'Italie. J'ai fait ma petite semaine chez mon frère, et après, avec mon sac à dos, j'ai continué en Italie, je suis retourné à Sienne. Voilà. Retour en Italie, mais vraiment, c'était pour une semaine, deux semaines, trois semaines, je savais pas. Et du coup, du deuxième ou troisième jour que j'étais là-bas, ne sachant pas, enfin vraiment, je verrais encore plus que les trois années que j'avais fait en France, un peu, je verrais vraiment. Et là, je rencontre une Sicilienne que je connaissais de l'Erasmus et qui me dit, mais toi, tu faisais du théâtre, etc. Demain, j'ai un cours de théâtre, ne viendrais-tu pas avec moi? Avec grand plaisir. Donc, j'y suis allé. Là, je rencontre quelqu'un qui va être déterminante après pour mon parcours, qui s'appelle Mila Moretti. voilà, oui. qui est la fille de Mario Moretti, qui est un dramaturge italien. Et en fait, elle me dit qu'elle voulait chercher un Français capable de lui traduire justement les textes, parce qu'elle faisait un spectacle sur Saint-Exupéry, et traduire les textes, enfin les lettres que Saint-Exupéry envoyait à sa femme et à sa néfaste. Ce que j'ai fait, elle m'a dit, mais cherche aussi un Français pour le jouer. J'ai dit, bah, c'est trop bien, je suis là. Elle m'a dit, tu vis ici? Je fais, oui, mais je ne savais pas trop où dormir. Elle m'a dit, mais tu loges ici? Je fais, oui, j'ai un appart, parce que t'es pas fou, ouais. Et en fait, je me dépatouillais pour pas dormir dehors non plus, même si des fois ça arrivait. Mais je me dis, vas-y, je fais ce projet. J'y vais, je fonce. Et en fait, ce projet, d'ailleurs, qui se passe très, très, très bien. Et Mila me dit, à l'issue de ce projet, donc ça, c'était sur un mois, on a joué un petit peu, etc. Elle me dit, mais pourquoi tu resterais pas là? Et l'école que j'ai, tient à deux. Et Mila, elle avait à l'époque, elle devait avoir, elle arrivait sur 60 ans, ou ça. C'est une femme très charismatique, qui a eu la polio à 5 ans, avec une scoliose vraiment extrême, donc qui marchait vraiment en boîte, enfin vraiment quelqu'un d'impressionnante en fait.
Oui, et avec voilà. Un charisme fou.
Ouais, et donc elle était capable de créer un groupe de manière magique, comme elle était tout aussi capable de le détruire. Mmh. Et voilà, mais c'est oui, c'est cette personne qui a beaucoup compté dans mon parcours et qui m'a en tout cas donné les clés, même si des fois là je serais. Je pourrais la critiquer pour plein de choses, mais c'est elle qui m'a lancé véritablement, qui m'a donné les clés en me disant, bah, vas-y, quand il n'y a plus d'essence, tu reviens. Et elle m'a donné, ça m'a permis de faire énormément de choses, parce que ça a duré quand même plus de 8 ans, l'histoire, avec cette compagnie qui s'appelle Théâtre Doux, ouais, dans laquelle j'étais professeur de théâtre, comédien, metteur en scène, j'ai pu faire plein de choses, je me suis mis là-bas. Et donc ça se passait plus que très bien, même si là-bas t'as pas de statut d'intermittent, donc j'étais dans un truc un peu plus bohème, on va dire.
Oui, par rapport c'est différent de chez nous.
Complètement, ils sont d'autres mondes en France par rapport à ça. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas les Italiens ce que faisaient en Italie, en disant, mais t'es un malade, ici on a... Mais en même temps, c'était autre chose, c'est-à-dire que moi, quand je montais un spectacle, je me retrouvais avec des gens qui travaillaient à côté. Les comédiens, c'était des gens souvent qui étaient serveurs, etc. Donc quand ils venaient avec un feu qui les animait. Ils étaient il y avait de l'envie, quoi. Il y avait de l'envie. Et voilà. Et c'est là aussi où ça a façonné mon théâtre, c'est-à-dire tout faire avec rien. Parce que comme on n'avait rien, on faisait avec rien. Et donc vraiment créer le théâtre que j'aime, c'est-à-dire le théâtre qui crée le pont entre l'imagination et la réalité. Que ça crée un théâtre réel et tangible, à mon sens. Alors j'ai rien inventé là-dedans, évidemment. Il y a des gens très, très connus dans le monde du théâtre et dans l'histoire du théâtre qui ont pensé et expérimenté ça bien avant moi.
Mais tu as suivi leur lignée.
Et voilà. En Italie, c'est beaucoup Eugenio Barba, justement, qui suit précédé Grotowski. Bon, évidemment, Peter Brook, dont je suis amoureux du travail et de l'homme. Et puis voilà, c'est ce qui a passionné mon théâtre, ce qui m'a permis aussi de faire du théâtre le mercredi soir. Je proposais aussi un cours de théâtre en français. Ça a passionné mon théâtre dans la mesure où je me retrouvais avec des gens qui parlaient français, mais qui faisaient pas de théâtre, des gens qui faisaient de théâtre qui parlaient pas français, des gens qui parlaient pas français qui faisaient pas de théâtre, et des gens qui faisaient du théâtre et qui parlaient français. Il fallait trouver une homogénéité dans ce groupe-là. Mmh. Et donc, je me disais, l'objectif à la fin de l'année, c'est qu'on joue ce spectacle en français et que le spectateur italien qui ne parle pas la langue comprenne ce qui se passe. C'était toujours notre défi et ça marchait. Donc en se positionnant sur un langage qui allait au-delà du langage, on va dire, de la linguistique, voilà, et qui est le langage un peu plus universel, même si le mot est un peu bon, galvaudé, mais universel du théâtre, voilà. Donc voilà, c'était pour un petit parcours italien, ouais, qui a duré...
Petit parcours de 8 ans, quand même.
C'est ça, 8 ans, j'ai quasiment 9 ans en Italie, parce qu'après je suis parti un an à Turin. C'est une histoire d'amour avec une italienne qui a fait que voilà, et avec cette Mila Moretti qui m'a permis beaucoup de choses, mais il était temps que ça devenait très toxique de comment, enfin voilà, c'était pas...
Oui, tu avais peut-être, t'avais certainement fait le tour de ce qu'il fallait.
Et voilà, il était temps que je m'en aille, et donc je suis arrivé à Turin, là où j'ai continué d'ailleurs un peu le théâtre aussi, à Turin, mais notamment avec des migrants qui parlaient, c'était tous francophones, et qui voulait parler italien pour travailler en Italie. En Italie, tu dois passer un diplôme en Italie pour les migrants pour montrer leur niveau d'italien, où est-ce qu'ils peuvent travailler, voilà. Et donc, à travers le théâtre, voilà, c'est la Cavalleria IPSA, qui est une grande association à Turin, etc. Donc, je vais continuer le théâtre avec eux. Et puis, là, pourquoi Turin, je travaillais. J'ai fait un an à Turin, qui est une ville que j'ai adorée, d'ailleurs. Et puis, voilà, et je suis revenu en France.
Ok, et donc là, que se passe-t-il à ton retour ?
Alors voilà, ben en fait, je suis revenu sans savoir que je revenais, c'est-à-dire que mes affaires, mes 10 ans d'affaires quasiment qui étaient en Italie, ben, y sont encore, puisque je suis jamais retourné. C'était ça il y a, c'était en 2016.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que j'étais à Turin, ma copine est appelée par l'université de Düsseldorf pour faire sa thèse et travailler à l'université. Donc elle part en Allemagne, donc moi je dis est-ce que je reste à Turin, est-ce que je retourne en Toscane ou est-ce que je vais en Allemagne, ne sachant pas, j'avais un petit mois devant moi, ce qui était la première fois depuis 10 ans, où j'avais le temps de retourner en Vendée, voir mes familles, machin, et je suis revenu, probablement en Corse, et puis il y a eu un petit projet qui s'est mis en place, puis deux, puis trois, puis j'ai commencé à renouer les contacts avec les gens que je connaissais, puisque il y a pas mal de gens qui étaient encore là, qui travaillaient dans le théâtre à La Roche, ben là, je parle de l'usine Pradé, qui sera déterminée en poste après derrière. Évidemment, il y a Anne-Lise, enfin, il y en a beaucoup.
Bien sûr.
Tous les gens que je connaissais de l'époque, donc tu renoues les contacts, et Vincent Bouillet qui revenait de Colombie, lui, voilà. Et tout se met en branle, les projets, donc c'était chouette, mais bon, ça faisait pas l'intermittence avec ça, mais les frangins du Balthazar, un petit bar rue de Verdun, cherchaient quelqu'un pour le week-end, donc ça tombait bien. Moi, ça me permettait d'avoir un petit complément de salaire et je travaillais un an et demi le week-end au Balthazar.
Oui.
C'était absolument génial, ça aussi. Et ce qui m'a permis en plus de patienter pour avoir l'intermittence. Et je suis devenu intermittent et me voilà à La Roche-sur-Yon, posé maintenant depuis 2016. Voilà.
Bien, bien, bien. Et donc, plein de choses qui sont restées en Italie et voilà.
Ben, tout est resté là-bas, sauf évidemment ben, l'amour que j'ai pour ce pays, évidemment les amis avec qui je suis toujours en contact. Certains d'ailleurs sont venus me voir. Et là, je crois que cet été, je vais y aller parce qu'il y en a qui ont vraiment commencé à me faire la gueule. Et voilà, ouais. Et voilà, ben, là, il y avait le printemps. On sort du printemps la semaine dernière, le week-end dernier, il y avait le printemps théâtral délisté. Donc, il y a le groupe de Catane. Donc, voilà, j'ai toujours tout le monde. Donc, Vance Marie, des fois, me demande un peu de. D'aller à l'encontre du groupe, justement, moi, ça me permet, ça me fait revivre un peu l'Italie, c'est toujours avec grand plaisir. Le lien avec l'Italie est toujours là, où je regarde toujours des films italiens, je lis l'Italie, je regarde des infos aussi l'Italie, enfin, je maintiens aussi la langue, etc., et la culture italienne est toujours là, quoi.
Oui, l'Italie, de toute manière, désormais, l'Italie sera toujours avec toi.
Oui, forcément, c'est un quart de ma vie, évidemment. Oui.
Bon, alors, t'es installé maintenant à La Roche, et qu'est-ce qui se passe maintenant ?
Là, à La Roche, se passe beaucoup de choses, oui. Beaucoup. Là, je suis donc comédien, metteur en scène, je suis professeur de théâtre. J'ai eu mon diplôme d'État, d'ailleurs, l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe ? Je sors d'une créa qui est... Pas début de créa, qui est celle de Antigone, où les 4 chants 10 semaines... C'est ma version d'Antigone, sorte d'Antigone de poche que j'ai écrit avec 3 personnages, évidemment les 3 personnages clés, même s'il pourrait y en avoir d'autres, mais qu'est-ce que sont Créon, Ismène et Antigone.
Tu as bien dit que tu as écrit, donc c'est vraiment toi qui as repris toute l'histoire, c'est ta version. Hein.
C'est ma version d'Antigone avec une autre fin, etc. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'était reprendre en fait le mythe, le moderniser un petit peu, en faire que 3 personnages. Parce qu'on a une compagnie où je ne peux pas me permettre d'avoir 10 comédiens.
Effectivement.
Il est au cas et ça marche très bien. Hein, et c'est super chouette qu'il y ait le bisou Amélie Fradé, le collectif Espace. Donc, je reviendrai justement avec l'histoire avec Mélusine derrière. On a produit ça, c'est une sorte d'Antigone de poche, 3 comédiens, 1 heure, temps de l'action est égal au temps de la représentation, avec scénographie très épurée, comme j'ai l'habitude de travailler. Le public a pu voir assez récemment, la première était le 23 février, on a eu l'honneur d'être les premiers à faire, donc, la programmation la rouverture du théâtre avec la ville de La Roche-sur-Yon. La rouverture, quand je dis la rouverture, c'est avec la mairie avant. C'était
bien sûr.
Évidemment, il y avait des choses. La rouverture du théâtre, mais la première de la mairie, de la programmation.
De la nouvelle régie.
Voilà. Et c'est quand même très très bien passé. On a fait quelques dates derrière en scolaire. Et puis là, c'est parti pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ben, au-delà de ça, il y a vraiment un travail de pédagogue que j'adore. Donc là, je travaille avec quand même 5 classes de lycée. Il y a,
alors, tu enseignes où ?
Alors, il y a le lycée qui vise Christelle et Laurent. C'est le lycée. Tous les jeudis, je vais là-bas avec un immense enthousiasme. C'est le lycée Rosa Parks. Donc, j'ai les secondes, les premières et les terminales. Donc, je passe ma journée là-bas le jeudi.
Tu as les trois niveaux là-bas ?
J'ai les trois niveaux là-bas, ouais. C'est toujours un régal, leur petite pub comme ça, 4 juin. Le 4 juin, voilà, au lycée de nature à 20h. Vous aurez la chance de voir les trois groupes évoluer. Donc, voilà, c'est le truc. Donc, ça, c'est les trois groupes de Rosa Parks. J'ai un groupe au rock, Big Up à Manuela, 19. C'est les premières du rock là, qui viennent de faire le festival théâtral, comme le printemps théâtral. Comme les terminales de Rosa Parks, d'ailleurs. En fait. J'ai les secondes de Saint-Ursule à Luçon.
D'accord.
Ils ont un Manuel Quirino. Je sors tous les blazes comme ça, tous les noms. C'est des gens.
Avec, c'est très bien, c'est très bien.
Ouais, puis c'est des gens avec qui j'adore bosser. Donc, voilà. Et voilà, donc il y a ça. J'ai des classeurs aménagés de théâtre. Donc, là, j'ai les troisièmes notamment. Donc les classeurs aménagés de théâtre, on va dire, c'est les options théâtre du collège pour faire un cours. Donc voilà, ça va de la sixième à la troisième. Là, j'ai les troisièmes aussi. Je m'occupe aussi sur les cinquièmes, sur un trimestre pour. La notion de Cometa sur Molière, etc. J'ai trois groupes adultes, trois groupes amateurs, qui ont chance et toujours le sourire de les accompagner dans leur projet. Le
Pont Moreno.
Ouais.
C'est top, ça c'est.
De quoi ?
J'ai les compagnies amateurs, c'est top aussi parce que c'est encore une autre approche.
Bah, c'est une autre approche, ouais. Puis ça donne le sourire avec l'envie, avec. C'est chouette et toujours des belles choses. Ils se font, ben là il y a le Pont Moreno, ce qui s'appelle la compagnie des jeudis, et qui fait plus de 3 ans. Depuis 5-6 ans, c'est chantier à Chaillé-sous-les-Ormeaux. Et sinon, j'accompagne aussi l'atelier Grizzly le lundi soir. Donc là, c'est avec la compagnie Grizzly, parce que tout ce que j'ai dit, c'est que la compagnie Collectif Espace, je collabore aussi avec la compagnie Grizzly. Et là, c'est le lundi soir, où c'est un atelier. D'ailleurs, l'atelier Grizzly, on présente le 6 juin au Jardin des Compagnons. C'est pas
bien.
Ben, voilà. Et le 15, on montre un travail au jeudi. Au Pont Moreno pour les jeudis et le chantier, c'est le 16 juin, le dimanche, à la pause, chez Sous les Ormeaux. La pause, le bistrot autrement, on conseille d'aller, si tu veux, boire un coup, manger un bout.
Eh bien, ça fait un super gros mois de juin, là.
Là, ouais, ça fait un très gros mois de juin. J'ai oublié 2-3 trucs là-dedans qu'il y avait. Mais ouais, ça fait un super bon mois de juin. Et encore une fois, ce que je faisais, une période de danse, mais un truc que j'adore, quoi. Avec des gens qui ont envie de créer une action commune, de faire les choses ensemble et avec
et puis c'est le sacré,
ouais, de parfois de soucis, parfois de conflits aussi, mais
toujours
dans l'esprit d'être ensemble et au service de la création de ce qu'on fait. Voilà.
Et le résultat de leur travail aussi et de leur
et voilà, ça concrétise
et de leur investissement.
Exactement, une année d'investissement et non, c'est toujours joli comme période.
Bien. Alors revenons donc sur Mélusine et la compagnie avec laquelle tu collabores là maintenant. Alors qui est-elle ?
Alors Mélusine Fradé, à Paris, qui a fait le conservatoire par La Roche. Alors elle, je suis génération en dessous, enfin je dirais à 3-4 ans de moins, donc on connaissait comme ça de vue quand on était plus jeune. Mais quand je suis revenu, alors là je parlais de Vincent Bouillet, parce que lui est revenu, il a fait ce spectacle Cheval Blême, qui a créé la compagnie La Mouche, la compagnie de Vincent. Dans laquelle j'ai commencé, j'étais comédien dedans, tout comme Mélusine. Et avec Mélusine, m'a ouvert énormément de portes, justement, puisque c'est elle qui m'a permis de me relancer dans ce. C'est pas que elle, mais elle surtout, elle a été un énorme tremplin, puisque j'ai commencé vraiment à travailler avec elle. Et j'ai pu vraiment travailler avec beaucoup, beaucoup de groupes et me refaire vraiment et de pouvoir faire mon travail ici, en fait. Et vraiment, elle m'a accompagné là-dedans. Et puis maintenant, on est tous les deux à gérer en fait la compagnie, artistiquement parlant. Et voilà, ça c'est depuis 2000. Elle a créé le collectif Espace en 2008. Donc voilà.
D'accord.
Vraiment, c'était à la base une compagnie qui l'est toujours pour l'instant, de moins en moins, mais c'est toujours ça, c'est qui est auto-financé par les ateliers justement. Et petit à petit, maintenant, on commence à rentrer un peu plus dans le game, on va dire. On se dit, il faut aussi qu'on soit là aussi avec les institutions, notamment, ça passe très bien, comme avec la ville, et puis, un petit mon kiki, quoi. On est là pour grandir, donc on y va, on y va.
Bien. Donc Antigone est un des fruits de ce travail.
Alors voilà, il y a Antigone notamment. Je parlais du Doux Parfum, des Temps à Venir, d'Exodine Trouillot, donc mes anciennes parties, Mélusine, avec Anne Roturier, professeur de conservatoire de Nantes, qui joue dedans. Oui. Et Cielo, un super bon violoncelliste qui l'accompagne dans ce beau projet. On a aussi ABC De Vos, mis en scène par Anne-Fide Grolard, avec Colin Tano, il y a Valérie Mornay, il y a aussi Anis Rodek qui joue dedans. Donc, hommage à Raymond De Vos qui tourne aussi. Donc voilà, il y a Angie, évidemment, là je parle d'Angie, je ne sais pas qui ne connaît pas Angie. Et voilà, ah, ben, donc, là, le collectif, oui, est très. Non, ouais, c'est pas beaucoup de projets en pédagogie. Là, je parlais de moi, mais je pourrais parler de mes usines et puis évidemment d'autres. Oui, ça regroupe beaucoup de gens et de projets.
Bon, mais c'est très chouette. Et donc là, les aventures à venir, parce que là, tu as parlé donc du mois de juin, de tout ce que tu vas présenter avec tes ateliers et puis tes classes.
Oui. Alors. Pardon.
Vas-y, vas-y. Non, vas-y.
Non, vas-y.
Donc, on disait les aventures à venir. Donc, Antigone qui va toujours tourner. Est-ce que toi, il y a une nouvelle création qui est déjà dans ta tête ?
Nouvelle créa, ouais. Là, je travaille dessus. C'est encore, donne encore un petit mois pour que ce soit très concret. Ça va être sur le conte, certainement. Voilà, un conte mondialement connu. C'est pas français. C'est italien. Voilà.
Ah, tiens donc.
Un conte philosophique qui est pour l'instant, oui, je vais baser. Si c'est pas exactement ce texte-là, c'est au moins autour de ça que je vais baser ma prochaine créa. Il sera autour de l'œuvre d'Italo Calvino, qui est un très grand écrivain italien du XXe siècle. Contemporain de Queneau, c'est lui qui traduit Queneau, etc. Enfin,
oui, d'accord.
Qui a traduit, je veux dire, Italo Calvino, un très grand écrivain italien. Ouais.
Très bien.
Notamment donc, un texte que j'adore. Mes grands textes préférés, qui est Le Baron Perco. Ce sera autour de ce genre de contes philosophiques que j'aimerais travailler.
Très bien. Donc là, c'est en préparation, en travail.
Exactement ça.
Bien. Et l'actu à proprement parler, toi, en tant que comédien, est-ce qu'il y a quelque chose ?
Alors, en tant que comédien, vu que j'avais axé quand même pas mal ces 2-3 dernières années sur la pédagogie.
Mais oui.
Donc ça faisait quand même. 2-3 projets où je m'étais écarté en tant que comédien. Très fort que l'on t'écarte, mais tu n'en t'appelles plus trop pour ça. Donc voilà, je le dis à la radio, je sais que tu es très écouté, voilà, ça y est, je retourne dans le game comme comédien.
Bien.
Là, pareil, j'ai eu des contacts où là, ça commence à parler de ça, ça va se concrétiser pour l'année prochaine. Donc ça repartit mon kiki, donc c'est chouette.
Bon, c'est super. Donc on va pouvoir te revoir en plateau enfin.
C'est ça, ouais. Puis moi aussi, je serais content, ça me manque. À force de faire jouer les gens, ce que je dis souvent à mes élèves avant de jouer ou aux comédiens, profitez-en de bande de vénards, parce que c'est vrai que à force de voir les gens jouer, moi aussi j'ai envie.
Eh oui. Voilà. Eh oui, ça manque. Hein.
Eh oui.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord.
C'est ce que c'est.
Oh oui, effectivement. On va faire un petit truc un petit jeu rigolo. Ce que j'appelle un tac-tac. Je vais te proposer 5 choses. Tu vas me répondre vraiment ce qui te vient à l'esprit tout de suite.
D'accord.
Là, tout de suite, maintenant, si tu voulais être dans un lieu particulier qui te tient à cœur, où est-ce que tu voudrais être là, maintenant ?
Là, maintenant, tout de suite ?
Ouais.
En forêt. Faire une petite balade.
Une petite balade ?
Une petite balade en forêt. C'est ce que je fais souvent l'été. Et là, ouais, j'avoue que c'est la chose que je vais faire dès que je vais avoir le temps. C'est dans un petit mois, je vais partir un mois et demi tout seul marcher, ce que j'adore faire tout le temps.
Et,
et j'avoue que, je suis très content de la période qui est en train de se passer. Mais là, la première chose, quand tu me l'as dit, la première image que j'ai eue, c'est un petit sentier au milieu d'une forêt avec mon sac.
Très bien. Tiens, on reparlera de la balade après.
Ouais.
Deuxièmement, ta fleur préférée, la fleur que tu aimes vraiment ?
Le coquelicot.
Le coquelicot, très bien. Et ta couleur ?
Le bleu.
Le bleu. Un plat cuisiné, soit que tu aimes cuisiner, soit que tu adores manger.
Tant qu'il y a des pâtes dedans, tout me va.
Voilà, la pasta. C'est pas pourquoi je m'en doutais un petit peu. Hein.
La pasta m'a cotta bene, hein. Al dente.
Et ta chanson du moment, celle que tu écoutes ou que tu aimes écouter en ce moment ?
Fun. All night, we are young.
Alors attends, répète donc.
Alors c'est Fun, le groupe c'est Fun avec Yael. Oh, je sais même plus. En fait, c'est Tonight We Are Young. Excuse-moi pour l'anglais.
Oui. Non, mais je vois à peu près. Alors donc, en fait, l'idée, c'est que si j'ai envie de te faire passer une bonne soirée, là, il faut que je t'emmène en forêt,
ouais.
Que je t'offre des coquelicots.
C'est ça.
Voilà, l'idée qu'on soit, on dresse une espèce de nappe de pique-nique, tu vois, une grande nappe bleue.
C'est ça.
On se fait une pasta et on écoute le groupe Fun.
Eh ben, on sera bien.
Et ça, voilà. Et là, c'est une super top soirée.
Exactement.
Ben, c'est super. Eh ben, écoute, va falloir qu'on y songe, alors.
Songez, va.
Hein, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Tu parlais de balade, justement, je reviens là-dessus, parce que tu dis que tu aimes marcher,
ouais.
Et ça, je le sais, ça, c'est dans ta vie perso. Tu as fait quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, puisque tu as fait une très grande balade. Il me semble que tu as fait Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Enfin, après, d'une traite, j'aimerais bien avoir 2 mois devant moi pour faire les 2 mois qui me permettent de partir du Puy-en-Velay pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Malheureusement, ça, je peux pas. Donc, souvent, comme j'ai 3 semaines, 1 mois devant moi, je faisais les parcelles qui me permettent de faire ça. Donc, j'ai fait des chemins en France, j'ai fait des chemins en Espagne aussi. Ça donne lieu à des moments. Moi, déjà, marcher, c'est un truc que j'adore. J'aime courir, mais surtout marcher. Et donc, ça m'a permis, ça te permet déjà, quand tu fais notamment le chemin français, depuis Anglais, ça te permet de découvrir tous les paysages. Les paysages français, puisque tu vas quand même du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc vraiment entre le Massif central jusque dans le sud-ouest. Avec l'Espagne, ça te permet de traverser énormément de régions, de climats différents, etc. Et avec lenteur, avec calme. Et la marche, je crois beaucoup à la marche, je crois beaucoup au corps aussi, c'est-à-dire que l'intellect, en fait. Et il n'y a pas plus spirituel que la marche, c'est quelque chose de très concret. Si tu as envie d'aller avoir la tête dans les étoiles, bah c'est d'avoir les 2 pieds sur terre, et la marche permet ça. Et,
voilà.
Et ça permet aussi des rencontres exceptionnelles, puisque
aussi.
Souvent dans ce genre de choses, on rencontre des gens exceptionnels. Voilà.
Donc tout histoire. Ça, le fait de la marche, ça te nourrit très certainement après pour ta création.
Oui, ça me libère, ça me nourrit. Mais déjà moi-même, au-delà de la création, c'est ça me fait du bien, en fait. C'est ça. Alors ça, encore une fois, c'est galvaudé, cliché, hein, ce que je vais dire, mais c'est ouais, tu te retrouves avec toi-même. Il y a des moments pendant 3-4 jours, tu marches, t'es tout seul, j'ai besoin de parler avec personne. Une fois, j'ai besoin, parce qu'après, je suis un solitaire, mais je suis pas quelqu'un de seul. Donc il y a un moment, après, moi, il faut que je vois des gens. Mais il y a des fois, j'ai besoin de me retirer un peu. Donc, et puis, le chemin permet ça. C'est-à-dire que tu choisis ce que tu as envie, quand tu as envie. Et vraiment, tu te retrouves. Tu te retrouves et tu te détends. Et il y a un moment, à force de marcher, tu sais plus quel jour t'es, tu sais plus tout ça. Donc, c'est une parenthèse vraiment dans l'année qui est pour moi super importante. Et tu arrives après complètement ressourcé, prêt, avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie. Et tu es solaire.
Voilà, et tu as fait le plein d'énergie.
Exactement, et tu as envie de réattaquer.
Bon, alors à quand la prochaine marche?
La prochaine marche, là, je me donne, ouais, ça va être... je pense qu'il y a le festival Les Nuits Menteuses qui va arriver. Moi, je pense qu'après Les Nuits Menteuses, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se faire. Là, je parlais de Vincent Bouillet qui fait sa créa, l'événement. Il y a les cycles 3 conservatoires qui vont faire... sa mise en scène d'Anis Rodet aussi, que j'ai envie de voir. Ils vont faire un Lagarce, il y a les créas de Laurent Breton, etc. Donc, je crois que je vais faire Les Nuits Menteuses, et à la fin des Nuits Menteuses, je mets un sac à dos
et hop.
Et je marche autant que je suis con, comme on dit. Pour moi, je vais faire des bornes.
Exactement. Ouais. Bon, mais super. Alors, je reviens un petit peu sur le résumé de l'actu. Donc là, toi, tu as un mois de juin... assez chargé. On peut retrouver tout ce que tu nous as expliqué, certainement te suivant sur tes réseaux.
Oui, carrément.
Voilà, donc toutes les dates avec toutes les présentations, donc des ateliers, de tes différentes classes et des différents travaux, donc dans les différents lieux à La Roche-sur-Yon.
Exactement, Roche-sur-Yon, Vendée aussi, jusqu'à Luçon. Ah, oui.
Voilà. Bon, et bien là, on te retrouvera et on va suivre ton travail. Et puis, ben, on va suivre aussi les dates d'Antigone. Vous revenez, est-ce que vous reviendrez sur La Roche avec Antigone?
Oui. Alors tiens, pour la petite nouvelle, en fait, Antigone, ça reprend mars-avril prochain. Alors si c'est si tard dans l'année prochaine, c'est parce qu'il y a un heureux événement pour Mélusine qui joue Ismène, puisqu'elle est enceinte, voilà, tout simplement.
Très bien.
Donc on reprend Antigone mars-avril. Et oui, si on... oui, c'est même pas qu'on risque, c'est qu'on va faire, oui, je... si je ne me trompe pas, au minimum de dates à la retraite. De dates, oui. Oui, c'est ça. Donc, ça sera sur les coups de sabre.
Très bien, on va surveiller ça et puis on va surveiller la suite pour voir tous ces beaux projets et tous ces beaux spectacles qu'il faut absolument aller voir, puisque je le dis, je le répète, il faut se déplacer dans les lieux, il faut aller voir le spectacle vivant, il faut aller en salle absolument.
Exactement. Et puis, bah, d'ailleurs, c'est toujours frustrant ce genre d'exercice, parce que là, je parle de toi, donc tu passes de ça à ça. On va parler de nous, Eva. Hein, on était au SMIC, on était lycéen. Il y avait ta compagnie, comment elle s'appelait ta compagnie d'ailleurs ?
La compagnie Sans Étiquette.
Sans Étiquette, avec laquelle j'ai eu l'honneur et le plaisir de jouer juste le blanc.
Exactement.
Dans le dîner de cons.
Dans le dîner de cons, tout à fait.
Ça avait été un grand succès à Valence.
Tout à fait.
Carrément, voilà, c'était le petit clin d'œil, parce que évidemment, dans mes premières années de théâtre, découverte du théâtre, t'étais là, tout simplement. Voilà, c'était des chouettes années. On a beaucoup rigolé.
Oh que oui, on a beaucoup ri et c'était et on a vu le résultat et c'était formidable.
C'était super chouette, super amusant.
Tout à fait. Eh bien, Karl, je vais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous.
C'est moi qui te remercie.
On a découvert on a découvert un peu plus ton univers.
Ouais.
Et puis, on va s'empresser d'aller voir toutes ces belles créations. Donc, avec le collectif Espace. Et puis aussi, un peu en collaboration avec la compagnie Grizzly, si j'ai bien tout compris.
Ça, bah après, oui, Grizzly, puis en fonction des projets, ça peut arriver avec d'autres compagnies, ceux qu'on connaît à La Roche. Hein.
Exactement.
Évidemment, le gros, c'est évidemment le petit espace pour lequel je travaille et qu'on... Enfin, voilà, le collectif. Et puis, bah, ouais, évidemment, toutes les autres compagnies, et je salue tous les collègues au passage. Et puis, j'espère avoir été trop décousu. Je passe de ça à ça.
Et puis, voilà. Mais c'est très bien. Et puis, comme tu dis, on les embrasse tous les collègues, tous ceux avec qui on travaille, on a travaillé et on retravaillera, évidemment.
Exactement.
Eh bien, merci, Karl. Je vais te souhaiter une très belle fin de soirée, et puis une jolie nuit, et puis en route vers de nouvelles aventures.
Avec grand plaisir de te voir, Eva, et puis ben, plein de belles soirées à toi, plein de belles choses, et de toute façon, bon, on risque de se croiser dans pas longtemps.
Oui, il y a de grandes chances. Merci, mon Karl, et à très très bientôt.
Merci à toi, à très très bientôt. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young. So let's set the world.
C'était le groupe Fun avec We Are Young. Vous êtes toujours sur Graffiti Urban Radio, dans ma bulle. Vous connaissez son accent ch'ti reconnaissable d'entre tous. One Man Show, télévision, cinéma, radio. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à lui, puisque début février, il est au théâtre. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois mon ami, l'humoriste Jean-Phi Janssen. Bonsoir Jean-Phi.
Bonsoir, comment ça va ?
Ça va plutôt très bien, et toi ?
Toujours très bien quand je vous au téléphone.
Alors on va en reparler tout à l'heure, mais tu étais au théâtre cet après-midi, il me semble.
Eh oui, puisque le dimanche on joue en matinée à 15h, donc je viens de clôturer ma série de 6 représentations par ce dimanche 15h. Donc c'était très bien, c'était un beau succès et les gens étaient contents.
Bon, ça fait plaisir à entendre. Alors pour commencer, je vais te demander en quelques mots de nous raconter qui est Jean-Phi Janssen. Et d'où vient-il ?
Il vient du nord de la France, et puis c'est dans l'actualité, mais ses grands-parents étaient ukrainiens et polonais, et voilà, le charme slave, hein, la beauté froide de l'Est, et moi, hein, voilà, c'est ça. Je suis un peu la Catherine Deneuve de Moscou, quoi, tu vois. J'ai fait ma scolarité chez les Bonnes Sœurs en internat de la 6e à la terminale, voilà, donc j'ai un rapport très, très fervent à la religion. Je suis pas forcément croyant en l'Église, mais je crois en quelque chose, tu vois, parce que j'avais le catéchisme, donc j'ai un côté un peu ésotérique, tu vois.
Très bien, et après les études ?
Quand j'ai fait mon coming out à mes parents, mais j'ai annoncé à une époque où c'était difficile de l'annoncer, en tout cas moins facile qu'aujourd'hui, même si c'est encore difficile, et j'étais persuadé que ça se passerait mal. Et je l'avais annoncé à ma mère avant, puisque ma mère, une maman sent les choses, hein, elle me l'avait demandé, puisqu'elle avait senti, elle m'avait demandé si je lui avais répondu, mais ma mère m'avait mis un peu la pression en disant « Ne dis rien à ton père, il va pas supporter. » Donc, rien que quand on te dit ça, déjà, tu n'es pas très à l'aise avec le sujet, quoi, tu vois. Donc, j'ai pris ma décision, j'avais rencontré un petit copain dans le sud, donc j'avais pris ma décision de dire à mon père, de l'officialiser et de partir dans le sud. C'est ce que j'ai fait, j'ai dit à mon père « Papa, je suis homo », et puis hop, j'ai pris le train. En gros, c'est ça. Mais comme il y a beaucoup d'amour dans cette famille, la tolérance a pris le dessus, et puis ils ont essayé de nous comprendre. Donc voilà, mais du coup, j'étais parti dans le sud, j'ai vécu à peu près une quinzaine d'années dans le sud, à Montpellier, où j'avais rencontré quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'était la vie de couple qu'il fallait surtout pas avoir. J'avais 20 ans, il en avait 30, et il avait ouvert des boutiques de fringues à mon nom, bah, c'était ça en plus, et au bout de 3 ans, il est parti avec la caisse, et je me suis retrouvé avec 90 000 euros de dette à payer à peu près. Donc, comme j'avais signé les papiers, parce que j'étais amoureux, là, j'avais pu signer, moi, et il m'a dit, une expérience douloureuse, mais qui m'a beaucoup, beaucoup appris sur la vie, sur les gens, sur la nature humaine, sur l'argent. Et les gens qui m'ont tendu la main à ce moment-là ne sont pas ceux que j'aurais cru. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Les mains tendues viennent de là où vous attendez pas, en fait. Hein. Vos amis, fiables, normalement, tout ça, ça a disparu. C'est marrant. Hein. L'argent, ça fait énormément de dégâts. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 24 ans. Et il y a une copine qui m'a dit, moi, je te verrais bien steward. Et c'était la grande époque d'Air France, et Air France recrutait à fond. C'est comme ça que je suis devenu steward. Ce n'était pas une conviction de gamin. Petit, j'avais pensé à monter dans l'avion, et là, et je vais me dire mieux que ça, mon premier vol, je devais faire croire à tout le monde que je maîtrisais très bien mon environnement. Je maîtrisais rien du tout, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, mais j'étais en costume, on aurait dit que j'allais à un mariage. J'ai découvert le monde, j'ai découvert des gens, ça m'éloignait de mes problèmes, parce que même quand vous avez des dettes et que les justiciers vous poursuivent, quand vous êtes à Rio, on peut rien vous faire. donc ça a été une bulle d'oxygène, ce métier, dans ma vie. Et puis j'ai adoré faire ce métier.
Voilà. Oui, quelque part ça t'a enrichi.
Oui, et puis du coup, mais j'ai un côté optimiste qui me dit non, mais de toute façon, il me dit il y a un message dans chaque chose, à moi de trouver le message. Et puis après, quand j'étais steward, je faisais rire les gens parce que j'ai un côté optimiste. Et comme je faisais des longs courriers, que j'avais le temps, hein, sur les longs courriers, j'ai plus de 10 heures de vol, j'ai le temps de parler aux gens, t'as le temps de faire du lien. Et tout le monde me disait, les équipages surtout me disaient, Jean-Phi, t'as un don pour raconter des histoires, tu devrais faire du théâtre.
Et donc l'arrivée de la scène dans ta vie alors ?
Et c'est une copine qui m'a inscrit à mon insu à un concours d'humoriste qui s'appelait le Printemps du Rire. C'était un gros festival à Toulouse et ils ont des sélections à Paris. Et en gros, c'était un gros festival parce qu'il y avait à peu près 900 candidats. Et à ce concours, je suis arrivé finaliste.
Ah oui ?
J'ai pas gagné, mais je suis arrivé finaliste. Et donc là, j'ai commencé à écrire le WAG, j'ai écumé les petites salles à Paris, mais tout ça en même temps que mon job de steward. Hein.
C'est-à-dire que oui, tu étais toujours en vol alors.
Oui, oui, je rentrais de vol, j'allais jouer dans les petites caves à Paris, hein, parce que c'était des fronts de caves. J'ai commencé dans un petit théâtre qui s'appelait The Artist, il y avait 30 places. Et c'était un peu compliqué parce que c'était pile au moment des attentats à Paris. Les gens ne venaient plus au théâtre, la peur commençait à prendre le dessus. Je voyais ma salle, je devais de l'argent au théâtre tous les mois parce que la salle n'était pas assez remplie. Donc ça me coûtait de l'argent. De la grande grève des intermittents. Donc il y avait personnel. Je te dis, j'ai bien choisi ma date. Hein. Mais bon, quand ça commençait à coûter de l'argent et que tu arrives à bouffer, ça devient compliqué, tu comprends. Et puis en plus, je ne faisais pas ce métier pour emprunter de l'argent à tout le monde pour ne pas savoir vivre. Il fallait y consacrer plus de temps si je voulais développer que ça marche. Donc c'est-à-dire, il fallait arrêter les avions. Et voilà, il ne fallait pas avoir le cul entre deux chaises. J'ai pris la décision d'arrêter sans savoir où j'allais. Hein. Mais d'arrêter, c'est-à-dire de poser un congé sans solde, puisqu'on avait, c'est possible, de 2 ans pour voir mon truc. Donc je jouais quand même avec un filet de sécurité. J'avais plus de paye, mais si en 2 ans ça marchait pas, je pouvais revenir dans mes avions. Et j'ai fait ça, et là c'était catastrophe. Je creusais mon déficit, le théâtre, ça marchait pas. Mais par contre, je voyais que ce que je disais ou ce que je faisais, le peu de gens qui venaient me voir adoraient. Donc j'ai fait toutes les foires au Boudin, tous les CE d'entreprise. Après, j'ai fait un deuxième Avignon où là, j'ai vu que par rapport au premier, on me connaissait un petit peu. J'avais un petit nom dans le... J'étais toujours en déficit et toujours pas rentabilisé ça. Et puis, il fallait encore payer parce que même quand tu fais le festival d'Avignon, c'est un petit billet de 15 000. Quoi. Je payais pas mon loyer. Franchement, c'était compliqué, très compliqué. Mais j'avais envie de prendre le risque. Tu vois, je sentais un truc en moi et même quand je doutais, il y avait un truc au fond de moi qui disait non, lâche pas. Même si je me plante, même si ça n'engageait que moi, si tu veux, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, tu vois, et la deadline arrivait, c'est-à-dire que ce délai de 2 ans que Air France me donnait pour mon sans-solde arrivait à son terme en décembre, donc en décembre, il fallait que je me décide de remonter ou pas dans les avions, et je devais donner ma réponse, et effectivement, en septembre, quand je suis à la première à Paris, en revenant d'Avignon, j'ai une salle de 70 personnes, j'ai 15 personnes dans la salle, dont 5 invités. Et là, je pleure. Et j'appelle Stéphane Plaza, que je connaissais déjà à l'époque, et je l'avais appelé. Je dis, Stéphane, c'est pas possible. Il faut que je remonte dans les avions. Ça marche pas. J'arrive pas à faire décoller le truc. Et Stéphane me dit, non, lâche pas. Tu vas voir. Il faut que tu continues. T'as un vrai talent, mais lâche pas. Et je dis ça. Et c'était en septembre. Le 6 octobre, Laurent Ruquier m'appelle. Et donc, c'était un numéro masqué. Je me souviendrai toute ma vie. C'était un numéro masqué. Et moi, à cette époque-là, quand c'est un numéro masqué, en général, c'est un huissier. Tu comprends?
Oui, dans une sorte de trouille, plus ou moins.
Alors, Henri Pierre, hein, tu vois. Et je décroche et je reconnais sa voix, mais directement, parce qu'il est identifiable. Il me fait, écoutez, je vous ai vu cet été à Avignon, ce que je ne savais pas, hein. J'ai trouvé ça très bien. Est-ce que vous voulez venir faire un essai aux grosses têtes? Parce que quelqu'un qui est ch'ti, qui est steward et qui est gay, a forcément des choses à raconter. J'y suis allé, mais dans mon petit esprit, c'était la chance de ma vie. Ma deadline, en tout cas, avant d'avoir à remonter dans les avions. Donc j'y suis allé avec toute la peur au ventre, une boule, je me souviens. Et je suis arrivé là-bas à rue Bayard, à FTL était encore rue Bayard. Et je suis arrivé là-bas, il y avait dans les loges, il y avait que des gens qui m'impressionnaient. Il y avait Christine Bravo, Ariel Dombal, Bernard Mabie, Pierre Bénichoux. Enfin, tu vois, j'ai failli prendre un plateau et servir des cafés à tout le monde.
Oui, un vieux réflexe quelque part.
Et Christine Bravo qui me dit, qui t'es, toi? Alors je dis, écoutez, Jean-Philippe en scène. Et Laurent Ruquier arrive c'est Jean-Philippe en scène, un nouvel humoriste, j'ai pris un bon accueil. Laurent Ruquier m'a beaucoup servi les plats parce qu'il est fan des anecdotes d'avion, donc j'ai pu raconter mes anecdotes. Laurent Ruquier m'a dit, j'étais sûr que ça marcherait, bienvenue aux grosses têtes. En 2 émissions des grosses têtes, ma vie avait changé. C'est-à-dire qu'on passait d'un petit théâtre de 70 places au grand point virgule, 400 places, 6 fois par semaine, en 2 émissions. Tout va vite, et tu dis c'est pas possible. Il y a un mois, je peinais à remplir et les gens venaient pas me voir, et aujourd'hui, ils font la queue et c'est complet. Et dans une plus grande salle, tu dis, il y a un truc, on va me reprendre. Tu dis, c'est pas normal. Tu vois, tu doutes.
Tu te sens presque illégitime, quelque part.
Oui, et t'as le syndrome de l'imposteur. Tu dis, mais est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'ils s'imaginent que je suis quelqu'un d'autre par rapport à ce que je peux offrir? J'étais pas bien. Il fallait être solide à ce moment-là parce que il faut être entouré. Voilà, donc je me suis vachement rapproché de mes amis d'enfance, ma famille, tu vois, les choses qui sont ancrées. J'ai fait ça, j'ai commencé, ça a été un succès. Les grosses têtes, ça ne s'est pas démenti, c'est resté un succès. Et ça a été vite une récréation pour moi parce que j'y suis comme un poisson dans l'eau. Et puis voilà, tout est parti comme ça. Et puis une tournée triomphale de mon one-man show, j'en fis d'école. Et on a fini à l'Olympia à Paris juste avant le Covid. Quand ma mère, elle a vu les lettres de son nom sur la façade de l'Olympia, elle pleurait. C'est un moment, c'était très émouvant même pour moi parce que je sais que ça a été de la haine, de la détermination et puis de l'abnégation, beaucoup d'abnégation.
Alors on vient de parler de Laurent Ruquier qui donc si j'ai bien compris quelque part est ton point de départ et aujourd'hui tu le retrouves à travers son travail puisque tu es à l'affiche de sa dernière pièce là depuis le début du mois de février.
Ah oui, bah oui, bah, la boucle est bouclée. Bon, en plus j'aime beaucoup le travail de Laurent parce que c'est un gros travailleur et avec on était en vacances, j'expliquais la genèse de la pièce. On était en vacances avec Ruquier et Plaza, il y avait Valérie Mélas, il y avait plein de monde. On était parti faire un safari photo en Afrique, au Botswana, tu vois, c'était super beau. Et dans un dîner comme ça avec Stéphane, on dit nous, on aimerait bien monter sur scène à deux. C'est vrai, parce qu'on avait fait quelques petits happenings sur scène. Stéphane était venu plusieurs fois sur la scène faire des petits happenings avec moi. Et on sentait que ça matchait bien tous les deux, tu vois, même en impro, hein, tu vois. Et on dit à Laurent, on aimerait bien monter sur scène ensemble. Et Laurent dit, je me souviens, il dit comme ça, ah mais j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser, j'ai une pièce dans un tiroir que j'avais écrite il y a plus de 5 ans pour moi, Isabelle Mergo, on l'a jamais joué parce qu'on n'était pas disponible, puis à la fin elle voulait plus le faire, et me dit elle dort dans un tiroir, si vous voulez je la ressors, je vous la fais lire, et puis après je réécris en fonction de vous, quoi. On dit bah oui, et il nous envoie la pièce. Alors effectivement il fallait rééquilibrer les rôles parce que j'étais un rôle féminin, un rôle masculin, donc il fallait transformer un peu la baguette magique de Laurent Ruquier qui a retravaillé les rôles et il nous a envoyé, on a pu même participer à l'écriture sur certains trucs. Comme ça est parti le projet, on l'a proposé à Valérie Mérès pour faire la femme de Stéphane dans la pièce et voilà, et tout s'est imbriqué comme ça. Et aujourd'hui quand je vois que cette pièce qui a été beaucoup de travail, parce qu'après on a travaillé avec Jean-Luc Moreau, on a eu beaucoup de répétitions, il y a eu le Covid, cette pièce aurait dû normalement avoir le jour il y a 2 ans déjà. L'actualité a fait que bon voilà, et on a repris cette année de 12 février et depuis c'est un succès qui ne se dément pas et j'espère que, et je pense que les gens prennent autant de plaisir à nous voir jouer que de nous jouer et c'est devenu un couple magique, voilà, et cette pièce est magique et donc je suis très content de voir que les gens viennent de partout. En plus on joue à Paris, je vois des gens qui viennent de Clermont, d'Annecy, Genève, et ils montent juste pour la pièce et ça m'impressionne toujours.
Les merveilles de ce métier, le partage avec le public, hein, en fait.
Et Laurent est content, Laurent il vient souvent parce que c'est au début quand tu joues la pièce dans le premier mois souvent le metteur en scène et l'auteur sont souvent là parce que en fonction de ils retaillent, tu vois, c'est un peu un laboratoire, un travail d'enfer, il y a des choses qui marchent mais qui pourraient mieux marcher si on ciselait un peu, donc on fait un petit peu des coupes comme ça, donc ils sont là et Laurent je vois qu'il vient très souvent, il est très content et il m'a dit l'autre jour je viens parce que j'adore entendre les gens rire et il me dit finalement et il dit et de savoir que c'est moi qui ai écrit la genèse de ce qui les fait rire, ça me fait du bien, donc c'est un peu une thérapie pour tout le monde. Nous ça me fait du bien d'avoir le succès sur scène et puis de rendre hommage à Laurent à son écriture et à Jean-Luc Moreau le metteur en scène, et puis eux ça donne du baume au cœur à tout le monde.
Donc en ce moment la pièce Un couple magique de Laurent Ruquier à l'affiche du théâtre des Bouffes Parisiens, voilà.
En ce moment, jusqu'à longtemps, pendant au moins 15 ans, madame. Et ça va finir à Broadway en comédie musicale, hein, vous savez.
Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite, enfin que je vous souhaite à tous.
Non, on joue du mercredi au dimanche, deux fois le samedi et jusqu'au 17 juillet.
Donc alors actuellement, c'est le théâtre, mais maintenant, est-ce qu'il y a d'autres projets One man, télévision, cinéma, est-ce qu'il y a autre chose qui va arriver?
Alors comme je suis superstitieux que tout n'est pas fait, je te dévoile pas tout. Après, je suis sur l'écriture de mon deuxième spectacle, bien sûr, qui verra le jour en septembre 2023. Puisque juste avant, je serai au théâtre, on est au théâtre jusqu'à peu près juin 2023. Hein, parce qu'il y a une tournée, après, enfin, tu vois, ça prend un gros morceau, et comme elle marche, du coup, ça va se confirmer. Et donc, j'ai l'écriture de mon deuxième, j'ai à peu près déjà écrit la moitié. Donc je suis content, ça sera mon nouveau bébé, mais le deuxième t'as un peu plus la pression parce que tu te sens attendu, les gens se disent bon ok le premier ça a bien marché mais est-ce qu'il sera aussi drôle ou est-ce qu'il aura des choses aussi intéressantes à raconter sur le deuxième, donc il faut pas décevoir et puis moi je sais ce que j'ai envie de raconter mon arrivée dans le showbiz J'étais pas attendu dans les avions, j'étais pas attendu dans le showbiz non plus, crois-moi. Donc c'est ça les projets. Et puis il y a des projets de cinéma et de séries télé. Je suis dessus en ce moment, je peux pas t'en dire plus, mais ça me tourne autour et je suis content. Ouais, ouais.
Et bah écoute, après cette dure période, bah, c'est tout ce que je te souhaite, de réaliser plein de nouveaux projets.
Oui, bah oui, c'est ça. Faut positiver, et puis on a tous besoin de positiver, et puis faut pas regarder derrière, faut jamais regarder, comme a dit maman, faut jamais regarder dans le rétroviseur, hein. Faut regarder devant.
Eh ben elle a bien raison, et puis d'ailleurs on l'embrasse, maman, voilà. Bon alors je le rappelle, un couple magique, donc ouais. De Laurent Ruquier à l'affiche des théâtres du Bouffe Parisien jusqu'au 17 juillet, et puis après on tournait dans toute la France, me semble-t-il, jusqu'en juin 2023.
Oui c'est ça, je crois qu'il y a plus de 70 dates de septembre à décembre, donc il y en a forcément une près de chez vous.
Eh ben écoute, on ne manquera pas d'acheter notre billet pour venir t'applaudir en salle, soit à Paris, soit en tournée.
Ah bah merci, c'est gentil, je vous attends tous nombreux, je ferai des bisous à tout le monde et on fera la chenille.
Bah ça c'est une super idée, en plus on adore ça. Eh bien il me reste plus qu'à te remercier d'avoir accepté cette invitation et puis d'avoir passé ce sympathique moment avec nous.
Merci pour votre écoute, parce que comme j'ai beaucoup parlé, c'est un peu une séance de psy en fait ton truc. Hein. Donc merci docteur, j'ai bien tout vidé mon sac et puis je suis content de donner du bonheur aux gens s'ils m'en donnent tout autant.
Merci infiniment Jean-Philippe. Et je te souhaite une très très belle nuit et à très très bientôt.
Bises.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus
entendre Santa avec son tube Recommence-moi. Santa qui vient de sortir son tout premier album solo la semaine dernière et que je vous recommande fortement. Et bien quant à moi, il est grand temps de vous quitter et de vous souhaiter une très belle fin de nuit. Je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, de nouvelles découvertes et toujours autant de musique, de joie et de bonheur. Et n'oubliez surtout jamais, croire en soi, c'est de réaliser ses rêves les plus fous afin de suivre son destin. Très belle fin de nuit sur Graffiti Urban Radio.